Merci d'être avec nous sur Radio Galaxy. J'ai le plaisir de recevoir Tiphaine Muller. Bonjour.
Bonjour.
Tiphaine qui va présenter la première conférence de la saison organisée par la Pub en Vol. Ce sera le mercredi 27 septembre à Rieux. Alors comment je vous décris, aventurière, voyageuse ou même les deux?
Comme vous voulez, on pourra voir à la fin.
Allez, on va dire les deux, aventurière et voyageuse. Parce que vous avez quand même réalisé 50 000 km à vélo autour du monde. Vous avez traversé l'Europe, l'Afrique, l'Océanie et même l'Amérique. Déjà chapeau, parce que pour faire 50 000 km à vélo, il faut un certain courage et une sacrée mentalité.
Merci.
Alors ça fait combien de temps que vous voyagez à vélo ?
Alors ça fait à peu près 7 ans que j'alterne du coup des voyages et des CDD quand je rentre en France pour financer les voyages.
Et comment elle vous est venue, cette envie de découvrir le monde? Est-ce que c'était une simple envie ou comme un besoin de voir de nouvelles choses et de rencontrer les populations?
Alors je pense que la fibre voyageuse, elle vient clairement de mes parents qui m'emmenaient, mon frère et moi, quand on était jeunes, chaque mois un peu aux quatre coins du monde. Donc c'est eux qui m'ont apporté ça. Et puis en fait, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée. J'avais pas de semestre à l'étranger comme beaucoup ont. Et j'étais très triste de pas pouvoir partir. Et du coup, je me suis dit, dès que je finis les études, diplôme en poche, je pars. Donc j'ai commencé par l'Australie et je suis partie en visa vacances-travail pendant un an. Et c'est là-bas que j'ai découvert un peu le voyage à vélo.
Ok, donc premier grand voyage, l'Australie, puisqu'on est d'accord que 50 000 km, c'est le total que vous ayez fait en 7 ans.
Oui, c'est ça. Donc, surtout sur, en fait, deux grands voyages. Mm-hmm. Donc, je compte pas vraiment l'Australie, puisque c'était seulement sur un mois, c'était une petite distance. Et vu la grandeur du pays, je pourrais pas dire que j'ai traversé l'Australie en vélo, parce que ça fait vraiment une toute petite partie. Donc les deux grands voyages, c'est plus le premier en 2017-2018 où je suis partie de chez moi depuis Paris et j'ai fait un tour d'Europe pendant 7 mois et ensuite un tour d'Afrique pendant 7 mois aussi.
Ok.
Et donc plus tard, après la pandémie du Covid, un deuxième voyage en 2021-2022 en Europe le temps que les frontières s'ouvrent. Et ensuite, du Mexique jusqu'en Alaska.
Des fois, vous étiez seul et des fois, il y avait Martin, un cycliste allemand qui vous accompagnait.
Oui, exactement. Donc, je suis partie de Paris, j'étais seule. En fait, je n'ai pas cherché à trouver quelqu'un. Et puis, voilà, les gens ont d'autres projets, ils travaillent. Ou... Voilà, j'étais contente de partir toute seule et de vivre au vide de mes envies et de mes désirs. Donc, j'ai vadrouillé pendant 7 mois toute seule. Et ensuite, quand j'ai décidé, donc au fil des kilomètres et des rencontres, j'ai décidé d'aller en Afrique. J'ai eu beaucoup de pression de part et d'autre, de pas partir toute seule, parce que voilà, être une femme seule en Afrique avec tous les préjugés que les gens ont, ils m'ont conseillé d'essayer de trouver quelqu'un. Et donc, à travers un réseau de cyclistes, j'ai été en contact avec ce Martin, qui allait lui aussi en Afrique, au Maroc, à peu près à la même date que moi. Et donc, du coup, on a essayé de se retrouver et d'essayer de voyager ensemble, ce qui a plutôt bien marché, puisqu'on est resté ensemble ensuite pendant 5 ans. Et donc, on a voyagé les 7 mois en Afrique ensemble et ensuite le deuxième voyage aussi plus tard, tous les deux.
Comment on s'y prépare à faire autant de kilomètres à vélo ?
Alors, moi, je n'étais pas tellement préparée et c'était un choix aussi de se dire, si ça ne me plaît pas si longtemps que ça, ce n'est pas grave, je rentre. Donc, quand je suis partie de Paris, j'avais juste en tête d'aller à Stockholm, en Suède, et ensuite de me laisser la possibilité effectivement de continuer si je le voulais ou d'arrêter si ça me saoulait, parce que c'est vrai que j'avais jamais pédalé autant de temps, donc je pouvais pas savoir en fait si ça allait vraiment me plaire. Et puis finalement, on s'y prend au jeu, on rencontre plein de gens, d'autres cyclistes qui ont fait le tour du monde et voilà, et plus on en fait, plus on veut en faire. Et donc c'est vrai que j'étais pas tellement préparée, seulement pour l'Afrique, j'ai dû forcément faire quelques recherches au niveau des visas, quelques vaccins et avoir un peu un équipement en plus, un filtre à eau, etc. Mais sinon c'était assez tout s'est décidé un peu sur la route et en fonction surtout des saisons, puisque voilà, j'étais avec un équipement assez basique. Donc j'étais dans les pays nordiques en été, j'étais en automne, hiver vers la Grèce et la côte adriatique où l'hiver est assez clément. Et ensuite, c'est pour ça que j'avais décidé d'aller en Afrique avec des températures assez douces aussi.
Ok, donc le feeling a joué un peu finalement.
Oui, oui, oui. Et puis de se dire aussi que j'étais basée sur mes économies et d'investir dans de l'équipement, ben, c'est possible hein, de traverser la Sibérie à vélo en hiver, mais en fait, il faut s'équiper et ça coûte très cher. Donc du coup, je voulais que mes économies me tiennent le plus longtemps possible. Et, donc,
voilà. Oui, parce qu'on imagine bien que vous êtes chargé hein, sur le vélo, mais il vous faut prendre en même temps le minimum de choses pour ne pas être trop lourd sur le vélo. Comment on s'organise ?
Oui, alors moi, sur mon premier voyage, j'avais seulement deux sacoches arrière et avec un sac à dos qui était calé sur les sacoches avec des tendeurs, rien sur le dos. Mais du coup, il faut que tout rentre là-dedans, sachant qu'il y a quand même toutes les affaires de camping, une tente, un sac de couchage et puis après, voilà, quelques vêtements de pluie, un pull et quelques trucs pour quand il fait un peu froid. Mais c'est vrai que c'est assez basique et mais après en même temps c'est ce qui est magique en fait de pouvoir vivre pendant un an ou plus avec juste deux sacoches et un petit sac à dos.
Oui, puis pour les nuits, comment ça se passait ? C'était du camping sauvage ?
Alors il y a eu beaucoup de camping sauvage, c'est vrai que bah, quand j'étais en Europe, je m'étais un peu fixé cet objectif de me dire bon bah je vais essayer de pas payer d'hébergement parce que c'est vrai que ça coûte vite cher une nuit en vrai camping ou en hôtel. Et donc j'alternais entre du camping sauvage et des nuits chez l'habitant via un réseau de cyclistes qui s'appelle Warm Shower. Donc je dormais chez l'habitant et donc ça c'était vraiment très très enrichissant parce que c'est vrai que j'étais toute seule déjà toute la journée sur mon vélo, donc ça me faisait un peu de compagnie le soir. Et en plus, c'était de voir comment les gens vivent, en fait. C'est culturellement parlant très intéressant de rentrer dans une maison, de voir comment la famille vit, ce qu'elle mange, à quelle heure ils se lèvent, etc. Donc ça, c'était vraiment des ressources très, très importantes.
Puis ça fait du bien aussi peut-être de voir d'autres gens quand on est seul longtemps.
Oui, 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 d'échanger, c'est vrai, le soir, de partager un repas. Et puis, comme c'est une communauté de cyclistes, c'est vrai qu'il y a déjà cette passion du vélo en commun. Donc, on a déjà ça. Et puis, souvent, les gens voilà, sont très contents de recevoir. C'est un peu de voyage qui vient chez eux aussi. Donc, c'est un échange qui change beaucoup le voyage.
Vous avez traversé le désert du Sahara, vous avez campé avec des éléphants et bravé les mouches tsetse. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'Afrique. Vous avez aussi pédalé du Mexique à l'Alaska, sur les routes pentues du Guatemala, en passant par les États-Unis, par le Canada, en territoire des ours. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre et quels sont vos plus beaux et grands souvenirs durant les 50 000 km ?
Alors, des choses, j'en ai vu plein, mais ce qui est de bons souvenirs, c'est vrai que c'est souvent les rencontres, parce que c'est ce qui est magique en vélo. C'est vrai qu'à vélo, on est en dehors, on n'a pas de carapace comme en voiture, donc ça facilite vraiment les échanges. On est très vulnérable, mais les gens viennent beaucoup vers nous. Et je pense qu'une des rencontres les plus marquantes, ça a été justement dans le Sahara, où en fait, on ne pouvait pas planter notre tente un soir parce que c'était... déjà, c'est du sable, donc ce n'est pas facile de planter les sardines. Mais en plus, il faut savoir que dans le Sahara, il y a un vent constant qui est là tous les jours et donc on ne pouvait absolument pas mettre notre tente. Et donc, du coup, on a demandé, il y avait un garde-côtier avec une petite cabane et il nous a dit « Ah oui, vous pouvez vous mettre, il y a une maison là de pêcheurs, mais les pêcheurs ne sont pas là, donc vous pouvez vous mettre à l'intérieur et dormir. » On s'installe et au bout d'une heure, on entend une voiture et donc il y a des gens qui arrivent et en fait, ce sont les pêcheurs. Et on se dit « Mince !» Donc là, on est quand même introduit chez eux, alors certes avec l'accord du garde-côtier, mais bon, voilà.
Ouais.
Et donc, on est ultra gênés et on se dit « Mince, on va se faire virer et on peut être content. » Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Ils sont super contents qu'on soit là. Ils nous disent qu'ils vont aller dormir ailleurs alors qu'il n'y a absolument rien des kilomètres à la ronde. Donc, on leur dit « Non, non, hors de question. Il faut que vous dormiez là aussi. » Et voilà, donc ils commencent à installer un espèce de drap entre la pièce principale pour qu'on ait chacun son côté. Ils veulent qu'on puisse charger nos téléphones avec la batterie de leur voiture. Ah oui. Ils nous offrent le thé. Ils veulent tout nous offrir. Et en fait, c'était assez incroyable cette réaction parce que nous, avec notre pensée occidentale, on s'est dit, bah, en fait, ouais, on va se faire virer, on va être en colère.
Et en fait, pas du tout.
Et en fait, pas du tout. C'était tout le contraire. Et donc, du coup, ça nous a mis une claque vraiment de générosité et de différence culturelle qui était assez incroyable.
Et quelle était leur réaction quand vous leur disiez que vous venez de France avec votre vélo ?
Bon, après, il faut savoir que les échanges, ils sont assez limités parce que nous, on ne parle pas la langue locale. Eux, ils ne parlaient pas tellement ni français ni anglais. Donc, c'est vrai que les échanges étaient assez limités. Mais bon, je pense que généralement, ils nous prennent un peu pour des fous. Ils comprennent pas trop, en fait, le but du voyage et aussi comment on a pu arriver de si loin jusqu'ici et surtout le pourquoi, en fait. Mais,
ils sont souvent surpris, ouais.
Ouais.
Il y a eu des moments un peu plus difficiles.
Oui, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Il y a beaucoup de moments dans le voyage où on se dit, mais pourquoi on fait ça ? C'est surtout quand il y a les conditions climatiques qui sont difficiles ou alors des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, vous parliez tout à l'heure l'exemple des mouches tsetse, par exemple. C'était au milieu de la Tanzanie, dans une zone très, très rurale, sur un chemin de terre où on ne voyait personne. Et en fait, il y a une mouche qui a commencé à se poser sur nous, une deuxième, une troisième, jusqu'à ne plus pouvoir les compter. Et en fait, on peut les comparer à des temps, en fait. C'est très agressif, ça veut vous piquer. Elles ne se détachaient pas de nous, elles nous suivaient en vélo, quoi. Elles aimaient bien la vitesse, justement. Et en fait, on était en train de se battre contre ces mouches en permanence, sauf qu'il fait 30 degrés. Donc, on avait décidé de mettre nos caouets pour éviter qu'elles nous piquent à travers le caouet. Sauf que, ben, on perdait beaucoup d'eau parce qu'il faisait super chaud. En même temps, on ne pouvait pas boire. Et elles essayaient de nous piquer le visage, les mains, enfin partout. Et donc ça, c'était un véritable cauchemar. Et en fait, il n'y a rien pour les enlever, les arrêter. Il n'y a personne. On est au milieu de la cambrousse. Et donc ça a été vraiment notre pire cauchemar.
Est-ce qu'après 50 000 km à vélo autour du monde, est-ce qu'on voit les choses différemment quand on revient chez soi dans notre vie de tous les jours ?
Oui, oui, forcément. Alors, c'est vrai que pour moi, une des plus grosses difficultés du voyage, bah, c'est le retour. C'est quelque chose auquel on n'est pas tellement préparé. Et même s'il y a des moments très difficiles sur le vélo et en voyage, et bah, en fait, quand on rentre, c'est une toute autre chose. On a vécu pendant un an avec quelques affaires. En Afrique, on faisait attention à l'eau. Chaque goutte comptait. On filtrait l'eau. Et après, on rentre et voilà, moi, je suis rentrée à Paris dans un appartement où bah, je tirais la chasse d'eau avec de l'eau potable. Donc, c'est vrai qu'on est tellement en décalage que c'est difficile de se remettre là-dedans dans une société de consommation où tout nous pousse à acheter. Alors que, bah, en fait, oui, on peut vivre avec une tente et un sac de couchage pendant un an. Enfin, c'est ce décalage qui est très difficile. Et puis aussi, sur les voyages itinérants, c'est vrai qu'on bouge tous les jours. Et en fait, on a l'impression d'avancer. En une semaine, bah en fait, on est passé par des dizaines d'endroits et après, on retourne à une vie plus sédentaire où on est au même endroit tous les jours. Il y a la routine qui revient et donc, c'est très difficile cette transition.
Il faut se réadapter, ouais.
Ouais.
Je vais vous faire une petite confidence. Lorsque Tiffen n'est pas sur son vélo, Tiffen écrit. Puisque vous avez décidé de recueillir tout ça dans votre premier livre, Little Miss Pedals, 20 000 km autour du monde, c'est le titre hein, de votre livre, qui retrace un peu votre périple à travers l'Europe et l'Afrique.
Oui, bah, en plus, c'est une très bonne transition parce qu'on parlait justement du retour. Et en fait, quand je suis rentrée de ce premier grand voyage à vélo, ben, je suis arrivée à Paris et je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, c'est un peu comme une parenthèse qui se ferme et c'est un peu un espèce de retour à la réalité. Alors bon, le voyage, c'est aussi une réalité, mais qui est très difficile. Et donc, pour moi, d'écrire ce livre, ça a été une véritable transition où, du coup, j'étais là physiquement, je travaillais, mais en même temps, en fait, je passais tout mon temps libre, tous mes week-ends à écrire, ce qui faisait que je me replongeais dans le voyage, que aussi, je revivais un peu tout ça pour en tirer quelque chose et pour prendre un peu de recul et puis aussi pour partager en fait tout ce que j'avais appris et puis toutes les histoires en fait qu'on raconte pas parce que c'est vrai qu'on rentre de voyage et les amis, la famille demandent comment ça s'est passé. Bon, bah, ça s'est bien passé, mais je vais pas commencer à leur raconter tout ce qui s'est passé parce que sinon on n'est pas rendu. Et donc pour moi, l'écriture, c'est vraiment comme un peu une thérapie après le voyage.
Alors je pense que c'est un livre qui va en intéresser plus d'un. Où est-ce qu'on peut le trouver ?
Comme c'est un livre qui est auto-édité, c'est vrai que j'ai imprimé une première série et qu'ensuite, quand je suis repartie en voyage, je l'ai un peu abandonné, disons. Mais récemment, je l'ai mis en ligne sur Amazon, qui est une impression à la demande. Et donc, on peut le commander en tapant le nom du livre sur Amazon. Et j'ai aussi quelques exemplaires parce que je participe à des festivals de voyage où je présente mes voyages. Et donc là, j'en ai réimprimé une série. Donc voilà, si vous êtes dans les alentours, on peut aussi le commander auprès de moi.
Le livre qui s'appelle Little Miss Pedals, 20 000 km autour du monde. Tiphaine, mon petit doigt me dit que vous êtes rentrée dans notre voyage il n'y a pas si longtemps que ça, il y a tout juste quelques jours, puisque vous venez de parcourir 669 km à pied cette fois-ci, et après 26 jours de marche, vous avez traversé les Pyrénées en solitaire et sans assistance.
Oui, exactement. Comme je travaille maintenant et que j'avais un mois de vacances et que j'ai fait un peu le tour quand même en Europe à vélo et que je suis plus ou moins, on va dire, dans ma zone de confort et que j'aime ne pas l'être, j'ai décidé de traverser les Pyrénées qui sont quand même pas très loin d'ici. Donc depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée sur la haute route pyrénéenne.
Et vous êtes arrivé le 17 septembre à la Méditerranée, donc vous voyez que c'est vraiment tout frais. Comment s'est passée la traversée ?
C'est difficile à dire, je dirais pas que ça s'est bien passé parce que ça a été quand même vraiment une aventure un peu plus intense que ce que je pensais. Je pensais juste marcher toute la journée, avoir du temps pour penser. Et c'est vrai que comme c'est une haute route, c'est un itinéraire, on va dire, assez engagé. Il faut souvent trouver son chemin et surtout, je n'ai pas été gâtée, surtout sur la première moitié de la traversée au niveau de la météo. Après 3 jours de canicule, il y a eu une semaine de mauvais temps avec beaucoup de pluie. Et ensuite, heureusement que la deuxième moitié s'est mieux passée et donc j'ai pu profiter des montagnes et de la nature à ce moment-là.
En termes de dénivelé, ça représente combien ?
Ça représente à peu près 40 000 mètres de dénivelé.
40 000 mètres ?
Ouais.
Super, et bien bravo encore une fois pour tous ces beaux voyages. Quelle sera votre prochaine destination à vélo ou à pied maintenant ?
Oui, et ben justement, ce sera une combinaison des deux, puisque le projet serait donc de rejoindre le Népal à vélo pour ensuite faire la traversée de l'Himalaya à pied.
Et vous reviendrez nous en parler avec grand plaisir. 50 000 km à vélo autour du monde, c'est la conférence que Tiphaine Muller vous présentera le mercredi 27 septembre. Rendez-vous à 20h à la salle de la mairie de Rieux-Volvestre. C'est organisé par la Pup en vol. Tiphaine, on vous retrouve sur les réseaux, notamment avec une page Instagram, Little Miss Pedals.
Oui, et à mercredi.
Merci. À mercredi, merci beaucoup Tiphaine.
Merci.
Radio Galaxy, c'est la radio que j'écoute.